Bonjour à vous tous, amis de Radio Dio, amis du Grémos. Vous êtes à l'écoute de Radio Dio 89.5 de la bande FM. Il s'agit de l'émission mensuelle du Grémos. Je rappelle le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois que vous écoutez régulièrement tous les mois. Et cette émission, nous vous le rappelons, vous pouvez la réécouter sur le site internet, le site www.gremos.l'autre.net. Vous aurez là toute la liste des émissions passées, et puis évidemment, vous pourrez réécouter celle qui vous intéresse le plus. Aujourd'hui, à la technique Lionel, casquette, yeux brillants, le sourire aux lèvres, enfin toujours égal à lui-même, et les invités, deux invités que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendu, Alban Graziotin, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Saint-Étienne.
Bonjour.
Est en train de préparer une thèse qui portera sur les ouvriers et les ouvrières dans le bassin de Saint-Étienne des années 1950 à 1980. Et puis Antoine Vernet.
Bonjour.
Doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Lyon 2, sa thèse qui va bientôt soutenir dans un an,
j'espère,
s'intéressera à la formation professionnelle, notamment à travers le cas de la métallurgie stéphanoise dans les années 1860, au début des années 1980. Et au micro, Maurice. Alors voilà, Antoine, à travers le travail que tu mènes sur le cas de la métallurgie stéphanoise, forcément que tu t'es intéressé et tu as retrouvé des archives qui t'ont amené à croiser la guerre de 14. Et le thème de notre émission va précisément porter sur les rapports sociaux patron-ouvrier pendant la Grande Guerre dans le bassin stéphanois. Alors, Alban, Antoine, vos recherches vous ont donc amené à vous intéresser à ce thème connexe pour vous, mais très important en ce moment, puisqu'il est, il fait partie des nombreuses célébrations que nous avons dans le pays. Et vous avez souhaité partager le fruit de vos observations. Alors ce travail est un travail long, de 18 pages, que vous avez écrit. Est-ce que vous avez eu l'intention de publier cette étude sous la forme d'un article ?
Alors, simplement, c'est un travail, en fait, on s'est lancé là-dedans, il y avait un appel à communication pour un colloque sur la question des main-d'œuvre pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un sujet qui nous intéressait tous les deux. On avait envie d'essayer justement de croiser un petit peu nos perspectives. Donc moi, plus sur la vision patronale par rapport au travail ouvrier. Donc Alban, qui avait déjà travaillé sur les ouvriers et les mouvements ouvriers pendant la Première Guerre mondiale lors de ses travaux de master. Donc on a répondu, on était curieux d'explorer un petit peu ce champ, ces relations justement entre employeurs et ouvriers, quelque chose de moins axé sur le mouvement ouvrier, mais plus simplement sur le quotidien, sur le routinier quasiment. Donc on a préparé pendant assez peu de temps finalement, ça a été un peu intensif, mais on a réussi donc à faire une communication, je crois, pour ce colloque qui a eu lieu le 18 et 19 mai dernier. Donc on avait un document de travail, c'est celui dont tu viens de parler. Et donc normalement, après ce colloque, c'était plutôt les retours étaient assez positifs. Donc normalement, il devrait y avoir publication des actes du colloque aux presses universitaires de Rennes avec un document qui sera légèrement condensé par rapport à celui-là, mais ça on a...
Bon, trace orale, trace écrite, c'est oui. Super. Hein. Et votre étude est particulièrement importante, à mon avis, et pertinente, parce que, d'abord, on n'avait pas porté attention à cette question là, des rapports patron-ouvrier pendant la Première Guerre mondiale, et aussi parce que le bassin stéphanois peut être considéré comme un véritable arsenal de la France à cette époque. Et vous avez été donc amené à voir comment s'est réalisée la reconversion des usines du bassin stéphanois vers la production d'armement, mais déjà un certain nombre de points avaient été abordés par d'autres chercheurs. et puis surtout sur le recrutement de la main-d'œuvre en remplacement des jeunes gens qui étaient partis au front. Alors, vous avez fait un recensement chiffré de ce recrutement des ouvriers, là, et vous évaluez à plus de 100 000 personnes l'effectif des ouvriers travaillant pour la Défense nationale en 1917. 100 000 personnes, dans la région céphanoise, évidemment. Alors, ça nous intéresse, là. Qui était-il et d'où venait-il ? Alban ?
Alors, tout d'abord, déjà, le recensement, il a été fait grâce à un travail par le commissaire de police de l'époque à Saint-Étienne, qui avait été amené à recenser l'ensemble des travailleurs travaillant dans les usines du bassin stéphanois pour la guerre. Donc c'est un recensement qu'on a retrouvé, donc on l'a utilisé. Le problème, c'est que il nous semble quand même assez, pas ambigu, mais il y a manque de données. On a pu croiser certains chiffres avec d'autres données, notamment, Antoine pourra en reparler, d'autres usines du bassin stéphanois, notamment Chavannes-Brun, je pense. Et on se rend compte qu'il y a des décalages entre les chiffres fournis par le commissaire et par l'usine en tant que telle. Donc là, c'est vraiment une estimation globale. Il y avait environ 108 à 110 000 personnes qui travaillaient en début d'année 1917 pour la Défense nationale. Quoi qu'il en soit, ce document est malheureusement partiel puisqu'il nous indique pas du tout d'où viennent ces gens. Et c'est une question à laquelle on sera amené, on pourra rebondir dessus plus tard. Parce que ça pose de grandes questions quant à l'originalité ou non du bassin stéphanois dans cette guerre.
Alors, on les a pris où, ces 100 000 personnes ?
Alors, 100 000 personnes, déjà, il y en a qui étaient déjà sur place quand même. Ouais. Parce qu'on a un certain nombre d'usines, notamment les usines sidérurgiques, une grande partie de la métallurgie mécanique qui travaillait en sous-traitance déjà, ou directement pour les ministères, ministère de la guerre, ministère de la marine. Donc, on avait quand même déjà une tradition de production militaire dans le bassin qui est assez importante. Alors ce qui est encore plus compliqué, c'est justement que tout un tas d'usines qui ne faisaient que des commandes civiles avaient dû se convertir à cette industrie de guerre. Donc on a un grand angle mort qui est le textile, par exemple. Mais ça, peut-être un jour, on arrivera vraiment à déterminer dans quelle mesure les usines textiles ont pu participer. Donc on avait une main-d'œuvre à la fois locale. Problème, les mobilisations ont complètement coupé les forces productives françaises dès août 14. Donc ça a été un énorme problème pour les industriels. L'armée, finalement, avait très mal planifié l'effort industriel de guerre. Et quand ils s'aperçoivent un petit peu de la catastrophe, du manque d'obus, il est presque trop tard.
On savait que la guerre allait être courte. Donc il n'y avait pas besoin de faire un effort de guerre.
Puis on pensait que l'allemand n'était pas si fort aussi. Il y avait quand même forcément l'armée française s'est un petit peu aveuglée sur sa propre puissance. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est assez connu. Donc finalement, l'effort même, l'organisation industrielle de la guerre, c'est quelque chose qui va venir avec Albert Thomas uniquement au printemps 1915. Donc on a une première petite année finalement qui est très compliquée à gérer pour les usines. On a donc quelques chiffres aux aciéries de la marine à Saint-Chamond. Théodore Laurent, qui est le directeur général, estime que les deux tiers de ses effectifs sont mobilisés sous les drapeaux. Donc avec plus qu'un tiers et souvent donc soit des très jeunes, soit des anciens ouvriers. C'est difficile d'assurer une production soutenue. On a d'autres exemples chez Arbel à Rive-de-Gier. Ça serait 40% de l'effectif à peu près qui serait amputé. Mais là, on est sur une usine plus petite avec un personnel plus stable finalement. Donc ça s'explique aussi pourquoi le chiffre est moins important. Donc on a beaucoup d'usines qui demandent aux autorités militaires à ce qu'on accorde un sursis aux ouvriers qualifiés.
Oui.
Donc ça, c'est pendant la première année. On demande qu'un tel qui est modeleur puisse rester à l'usine, qu'il soit affecté à l'usine, un tel qui est tourneur puisse rester, etc., etc. Donc cette première année, c'est vraiment le temps des demandes de sursis individuels, toute une paperasse entre les usines et les autorités militaires de tutelle sur la question, donc quelque chose d'assez difficile à gérer.
Et puis à partir de 1915, alors, on rentre dans une politique plus affirmée de l'État, là.
Plus affirmée. Alors déjà, on avait quelque chose qui avait commencé avant, c'était l'affectation de soldats mobilisés dans des usines qui n'étaient pas les leurs. Donc ça, On en retrouvait notamment à la Manu. On avait aussi un manufacteur d'armes de Saint-Étienne. On avait d'autres usines aussi qui pouvaient bénéficier de ce personnel mobilisé qui était affecté. Mais à partir du printemps 15, c'est quelque chose qui va s'institutionnaliser. Et donc, on n'a plus des demandes individuelles quasiment. C'est une usine va dire on a besoin de 30 tourneurs, 10 mouleurs. Et donc, plus ou moins, les différentes instances militaires vont affecter cette main-d'œuvre. Donc il faut contrôler déjà qu'un tel est bien mouleur et pas simplement manœuvre.
Donc on fait revenir du front.
Oui, oui, oui.
On dégarnit le front. Et ça, on ne le sait pas assez. Hein.
Et ça, les autorités militaires s'en plaignent aussi amèrement, hein, au bout d'un moment. Et donc, on a deux lois sur cette main-d'œuvre mobilisée. La première, c'est la loi d'Albier de 1915, où en gros, donc, on instaure un peu le système d'affectation de la main-d'œuvre militaire, donc avec une catégorie spéciale, avec ses propres règles. Ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Et il y aura une deuxième loi en 17, la loi Mourier, qui, elle, va faire en sorte justement qu'on arrête cette hémorragie du front. Les seuls qui peuvent revenir du front, en gros, sont les pères de famille nombreuses. Et on renvoie justement les jeunes classes vers le front. Donc ça se passe pas forcément très bien en 17. C'est l'année un peu de tous les dangers et de toutes les luttes à l'arrière, comme sur le front également. Et donc, cette main-d'œuvre mobilisée, vous avez beaucoup de Parisiens, de
gens du Nord, beaucoup de gens,
oui,
du Nord aussi.
Voilà, donc des gens qui sont vraiment déplacés, qui ont des cultures professionnelles pas forcément identiques à celles qu'on peut trouver dans le bassin. Dans le même temps, on va avoir d'autres main-d'œuvre qui vont être mises au travail, littéralement. Alors, en 1915-1916, ça va être le grand temps des femmes. Donc avec des emplois qui sont légèrement moins qualifiés, il y a tout un travail justement de simplification, rationalisation du travail pour ne pas être dépendant de la qualification. Donc les femmes à qui on reconnaît une certaine habileté, mais à qui on nie la qualification, viennent remplacer les hommes habilement. Mais l'usine, c'est un cadre qui n'est pas forcément très adapté aux femmes. Il y a quand même toute une vision très, très morale, très hygiéniste aussi sur les femmes et l'usine. Donc c'est quelque chose qui va s'arrêter en premier, et donc d'autres mains d'œuvre vont être, on va faire venir d'autres mains d'œuvre, des étrangers, jusqu'en 1915 on avait beaucoup d'Italiens qui étaient très recherchés, il y avait les réfugiés belges aussi, et puis quand l'Italie entre en guerre, il faut trouver d'autres nationalités, les Espagnols, les Portugais, les Grecs aussi, et puis plus tard, de plus en plus, on va trouver également la main d'œuvre nord-africaine. Alors, plus souvent les Kabyles qui sont mis en avant, mais bon, ça, ce sont des constructions sur lesquelles il serait intéressant de revenir. C'est difficile de le faire en peu de temps, mais le Marocain est plus travailleur que l'Algérien, le Kabyle est plus travailleur que l'Arabe. Ça, c'est vraiment des représentations qui se construisent à cette époque.
Et qu'on retrouve textuellement dans les archives du ministère, notamment Thomas, où ils font toute une typologie des main-d'œuvre. Ils les classent en fonction de leur adaptabilité, de leur capacité de travail. Et donc là, on a une hiérarchisation qui est en fait une racialisation de la main-d'œuvre qui se met en place à ce moment-là.
Voilà. Alors on est dans une situation où on s'imagine qu'en accumulant la main-d'œuvre, parce que le mot d'accumuler est vraiment bien celui-ci, hein, les ateliers sont trop petits, les halles de production à la manufacture d'armes sont trop petites, et on voit les femmes sur les photos de l'époque être toutes les unes sur les autres avec des moyens de travail assez délicats. Mais par ailleurs, hein, y a cet aspect que nous fournissent les photos, mais par ailleurs, votre travail est fort intéressant parce que dans ce contexte de pénurie de la main-d'œuvre, vous vous êtes aperçu que les entreprises stéphanoises se sont appropriées tout d'un coup les principes de rationalisation de la production industrielle. Et là, vous apportez quelque chose d'essentiel, parce que la coupure du XXe siècle dans le domaine industriel, elle ne se fait pas en 1901. Je vous le montrer, elle se fait en 1915-1917. Alors, qu'avez-vous découvert ?
Donc, ce qui manque dès le départ, en fait, c'est que déjà, on a des productions qui sont très spécifiques. Alors, à part peut-être dans les grandes aciéries, type aciérie de la Marine, aciérie de Firminy, où là, on va construire quand même des tôles, des blindages, pour des chars, notamment les chars d'assaut à Saint-Chamond. La plupart des usines, en fait, vont se reconvertir vers la fabrication des obus, des shrapnels, d'autres, des gaines, notamment, enfin... On a tout un ensemble de fabrications très spécifiques en grande série. Et ça, c'est une nouveauté particulièrement importante. Jusque-là, en fait, le bassin stéphanois, en termes de construction métallique, mécanique, très longtemps, en fait, on a eu une domination sur la production française jusqu'aux années 1880. Et en fait, à partir de ce moment-là, la concurrence fait que les usines vont devoir se reconvertir une première fois, passer de la grande série des produits ordinaires vers des produits beaucoup plus spécialisés. On est quasiment dans du travail à façon, on s'adapte vraiment au maximum à la demande du client. Et donc la guerre va être une rupture puisqu'il faut faire ces grandes séries, ces produits très standardisés. Et du coup, donc, il faut mettre en place des structures. Elles n'étaient pas adaptées du tout. Donc il faut trouver des ateliers. Bon, il y a plein d'ateliers de fabrication qui ne servent plus à rien, donc on les reconvertit facilement. Mais l'objectif du ministère à l'époque, c'était 1 million d'obus par jour. Bon, on n'y est quasiment jamais arrivé, mais 1 million d'obus par jour, si on recoupe ça sur les plus grandes usines, quand même, ça fait quelques milliers. Donc il faut organiser véritablement la production. Donc le moindre espace est utilisé. Donc les ouvrières, les ouvriers sont particulièrement serrés, les machines sont rapprochées, il y a beaucoup plus de tours pour travailler, usiner les pièces. Il faut organiser également le cheminement des pièces, des productions au sein de l'atelier, donc on essaie de les réagencer, c'est pas toujours évident, puis certains dirigeants d'entreprise sont pas forcément si ouverts que ça aux idées qui se développent à l'époque. On a l'influence de Taylor, de Fayol un petit peu. Mais
alors comment elles nous sont venues ces idées du taylorisme et du fayolisme?
Il y a un petit milieu scientifique en France qui dans les années 1905-1910 ont commencé à développer ces idées, à les reprendre. Fayol, lui, travaillait à Commentry, Fourchambault, donc c'est un diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc,
et les grands patrons ont voyagé aux États-Unis aussi.
Un petit peu. On sait que, par exemple, Étienne Mimard a fait un beau voyage à l'occasion de l'exposition universelle de 1904. Donc il a pu ramener quelques principes de rationalisation du travail. Après, peut-être la grande industrie pouvait se permettre de faire ces investissements. Les plus petites entreprises... Elle s'adaptait comme elle pouvait. C'est pas tellement sur l'organisation du travail qu'elles ont pu agir, c'est peut-être plus sur les conditions même du travail dans lesquelles elles s'inscrivaient. En tout cas, le mouvement général, c'est comme on ne peut pas avoir les ouvriers qualifiés qu'on avait aussi facilement qu'avant, il faut déqualifier le travail. Il faut atomiser les tâches de production, donc... au lieu d'avoir un même ouvrier qui va maîtriser toutes les tâches d'une fabrication, on va faire ce qui donnera beaucoup plus tard la chaîne, finalement. Et donc, une personne, un poste, un geste. Et donc, ce qui compte après, c'est que le produit circule, il n'y ait pas de stock, il n'y ait pas de rupture de chaîne.
Et vous voyez apparaître le chronométrage, alors qu'habituellement on considère que le chronométrage est apparu vers 1930.
Alors les premières tentatives de chronométrage, la toute première, c'est dans les années 1880 à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. À une époque où c'est quelque chose d'assez marginal, effectivement. Là où le chronométrage va se développer, donc avec l'influence de Taylor, c'est au début des années 1910, chez Renault, chez Berliet à Lyon. Donc là, quand on a des productions qui peuvent être en série, donc l'automobile, c'est vraiment le secteur type du chronométrage, il s'était déjà développé, alors difficilement, parce que les ouvriers n'acceptaient pas justement qu'on change leur mode de travail, et puis la rémunération qui est associée au chronométrage, c'est ça le plus important, c'est le nerf de la guerre en fait.
Alors Alban, on assiste à une dégradation des conditions de travail, véritablement dans ces ateliers ?
On assiste à une dégradation de travail dans le sens où il y a une intensification du travail, où le temps de travail s'allonge, il y a moins de jours de repos, donc il y a une usure physique, mentale, qui se met en place, c'est certain. Après, on a beaucoup moins de données concrètement sur la façon dont les entreprises elles-mêmes ont géré, ont pris en charge ces questions d'accidents de travail ou de dégradation de travail. On a réussi à avoir la main sur quelques registres, notamment pour les entreprises Holzer à Unieux. sur les accidents du travail. On se rend compte que ces accidents sont de plus en plus nombreux, vont toucher les mains, les doigts, etc. Mais finalement, on a du mal à les quantifier correctement, dans le sens où il y a eu une explosion de la main-d'œuvre dans cette usine-là. Donc il faudrait faire tout un travail statistique pour essayer de voir s'il y a vraiment une augmentation des accidents de travail durant cette période. On sait par exemple que dans les mines, il y a moins d'accidents de travail, voire moins d'accidents mortels durant cette période, avec une intensification du travail pourtant. Donc c'est des données qui sont encore assez difficiles à mettre en avant et il faudrait vraiment investir statistiquement le peu de données qu'on a malheureusement.
Et puis les données sont dans des services qui ne sont pas forcément les plus connus d'archives. Donc il faut chercher en fait. Les archives existent un petit peu quand même, mais il faut savoir où elles sont. Ce n'est pas le plus évident.
Alors une petite pause musicale. Les choix ne sont pas très nombreux pour ces petites pauses musicales. Alors nous avons trouvé parmi ces documents historiques un très court chant qui est intitulé « Qui a gagné la guerre ?»
C'est une question qui devient populaire. On entend partout sur des tons différents. Quel est donc celui qui gagna cette guerre dont le monde entier souffrait depuis longtemps? Les uns disent c'est l'Amérique, au blocus dit l'autre pas l'honneur. Moi je réponds cessez vos polémiques, car le vrai, le seul des grands vainqueurs. Voilà, soldats de France qui sans peur marchaient au combat. Avant la lutte et la souffrance, le poilu était toujours là. Le sac au dos couvert de terre, oui c'est lui qui fit nos succès, c'est lui qui l'a gagné la guerre, le poilu, le soldat français.
Antoine, revenons à nous. À nos questions essentielles sur les rapports sociaux patron-ouvrier pendant la Grande Guerre dans le bassin stéphanois. On a donc vu que de nombreux célibataires sont venus travailler dans les usines du bassin stéphanois, mais tous ces gens, il faut les loger. Alors, comment les patrons se sont-ils comportés vis-à-vis de ce problème?
Alors là, on est vraiment dans sûrement le principal problème de la période. Le logement à Saint-Étienne et dans le bassin est en fait largement insuffisant, en mauvais état avant la guerre. On en prend conscience pour des raisons diverses dans les quelques années qui précèdent le conflit. Donc là, le problème qui explose littéralement, c'est que on a des gens qui sont partis, donc on a quelques logements vacants, mais les femmes sont restées généralement, donc pas tant que ça. On a un afflux de main-d'œuvre qui est formidable, qui est considérable, et donc il n'y a pas de logement, donc... Il y a une politique du préfet pour essayer justement d'encourager tout le monde, toutes les parties, les villes, les patrons à s'intéresser à cette question, mais les cités ouvrières dans le bassin stéphanois, en fait, il y en a très peu. Il y a juste les cités minières quasiment. Et c'est uniquement en 18 finalement que les premières cités, peut-être les 17-18, les premières cités à nouveau sont construites par les entreprises. Mais on est sur des choses qui sont très réduites. Ce qui va surtout permettre de loger cette main-d'œuvre, ce sont les cantonnements, notamment pour la main-d'œuvre étrangère, coloniale ou exotique. Il y a beaucoup de Chinois aussi dans le bassin. Et donc là, on est dans des conditions assez spartiates.
Avec une cohabitation qui pose souvent problème.
Oui, oui, donc c'est pas un grand confort. Mais encore, donc on leur prend généralement 3 francs, 2 francs 50 par jour pour payer le gîte et le couvert. Le vin n'est pas compris, hein, faut le payer en plus. Mais ils sont finalement pas si mal lotis, puisque eux, on peut leur donner un logement. C'est plus compliqué pour les ouvriers français, qui sont mobilisés ou non, qui n'ont pas forcément envie d'aller au cantonnement. Et c'est encore plus compliqué pour les familles, parce qu'il n'y a vraiment pas de place disponible. Et puis les rares logements disponibles, notamment des garnis, les propriétaires mènent une politique de loyer qui est scandaleuse. Et c'est vraiment la plainte récurrente pendant la période, la vie chère, c'est surtout par le logement et sa rareté qui donc permet de faire un peu de spéculation là-dessus pendant la période.
Alban, dans cette période où apparaît le taylorisme, l'automatisation des productions, vous voyez également apparaître des pratiques inédites de salaire dans les entreprises. Ça, c'est assez intéressant.
Alors, je pense qu'Antoine pourra en dire beaucoup plus que moi sur ce sujet-là, mais je voudrais juste relativiser quand même l'impact de la taylorisation et de la rationalisation du travail dans le bassin. C'est vrai, dans certaines entreprises, même pour certains ateliers, donc c'est vrai pour les grandes entreprises, les plus importantes du bassin stéphanois, et c'est vrai aussi dans ces entreprises, donc pour certains ateliers. Et il est essentiel de bien comprendre que les structures industrielles du bassin stéphanois qui préexistaient vont exister par la suite aussi, et il va y avoir quand même une dualité qui va se mettre en place quand même entre ces grandes entreprises qui s'inscrivent complètement dans les nouvelles formes de travail et le vieux secteur industriel stéphanois, aussi bien dans le textile que la mécanique ou même dans certaines entreprises de forge, qui vont, elles, vont rester très traditionnelles et vont garder un cachet très 19e siècle. Et ça, jusque dans les années quasiment 1950. Mmh. Donc pour la question des salaires, Antoine, je pense que tu vas pouvoir en dire un peu plus.
Alors, Antoine, parce que c'est directement lié, en fait. Quand les entrepreneurs ne veulent pas investir, bon, y a une pratique qui est assez inédite pendant la période, c'est qu'en fait, le ministère avance les fonds pour les commandes, ce qui permet de faire tourner la machine. Parce que sinon, s'il devait attendre d'être livré, jamais l'argent n'arriverait pour payer les salaires. Donc c'est vraiment... C'était plutôt bien fait à ce moment-là. Et certains patrons en ont profité pour s'enrichir, mais ça, c'est une autre question. Donc, en fait, pour éviter cet investissement dans l'équipement, on va réfléchir à changer un petit peu le système de rémunération des ouvriers. Comme il y a une déqualification du travail, en fait, ça permet de remettre en avant le salaire à la tâche. Donc, le salaire au rendement est... se développe de manière assez importante, tout un tas de systèmes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça permet justement d'encourager à la productivité. Alors, il y a un effet pervers, c'est que l'ouvrier de métier, par exemple un ajusteur, il se balade d'un atelier à l'autre, ou dans l'atelier, il n'a pas une machine fixe. Il va aller régler, il va aller faire de l'entretien, et on ne peut pas quantifier son travail de manière évidente. Alors qu'un usineur, lui, on sait combien de pièces il a produites. Et on a un exemple qui est fabuleux, c'est qu'à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, les usineurs vont être mieux payés que les ajusteurs. Mmh. Alors que les ajusteurs sont des ouvriers qualifiés et pas les usineurs. Donc ça, le salaire au rendement, quand il n'est pas pensé correctement, il peut ne pas être très motivant pour certains.
Alors, précisons bien, les salaires horaires, comment évoluent-ils ?
Alors les salaires horaires, ils vont augmenter. Petit à petit, en fait, c'est pas le salaire, le taux horaire qui va augmenter le plus. Il va y avoir des primes par rapport à la
vie chère. Le salaire horaire est stabilisé.
Relativement.
Mais il y a les primes au rendement.
Les primes au rendement et les primes annexes, primes d'ancienneté, primes de vie chère, etc. Le seul problème, c'est qu'avec l'inflation pendant la période, le salaire augmente, mais le niveau de vie diminue. Donc... c'est quelque chose d'assez difficile à supporter pour les habitants du bassin. Et donc avec l'augmentation des loyers, des produits alimentaires également, puis les vêtements sont aussi plus rares. Enfin, c'est toute une coordination, une conjonction de phénomènes qui vont presser finalement les conditions de vie de la main-d'œuvre.
Il y a une prise de conscience chez les ouvriers de la différence entre...
Bah, quand la ménagère voit que pour aller acheter le pain, ça devient de plus en plus compliqué, oui, là, la prise de conscience, elle est assez immédiate.
Alban, nous étions à l'époque de l'Union sacrée, et, sur le plan politique, c'était la règle dans tout le pays, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment dans les entreprises, il y a cette adhésion. Y a-t-il une véritable adhésion à une cause qui est supérieure, sous prétexte de la guerre, qui serait capable d'occulter les conflits au travail ? Qu'avez-vous observé ?
Alors là, c'est toute l'ambiguïté de la période, justement, dans la mesure où il y a évidemment une volonté de revanche du départ. Et les débuts de la guerre, si ce n'est dans l'enthousiasme, se font du moins dans un consensus généralisé. Mais c'est avec cette extension et cette durée de la guerre que les failles vont commencer à apparaître. Donc l'année 1914 est encore assez calme. On voit d'ailleurs des lettres, on a des lettres de personnes qui se plaignent, de certains qui sont rapatriés derrière le front pour ne pas travailler, qui ne font pas leur devoir moral et leur devoir patriote. Donc voilà. Mais par contre, à partir de 1916 surtout, et là on est dans une chronologie locale qui retrouve complètement la chronologie nationale, si ce n'est européenne, il y a des failles qui apparaissent véritablement. Et les militants du bassin stéphanois, qui sont pour beaucoup importés du bassin parisien, vont être une des clés de la contestation contre la guerre et qui vont donc ébranler l'union sacrée qui se met en place.
Alors vous employez le terme de débordement. C'est vous qui utilisez ce terme ou si vous le reprenez d'autres chercheurs ?
Alors ce terme-là, je l'ai repris, je ne l'ai pas repris spécialement d'autres chercheurs. C'était dans une, quand on a réfléchi avec Antoine sur l'appel à communication, donc pour le colloque, je m'étais dit que c'était intéressant d'essayer de voir un petit peu la dialectique entre cadre et débordement. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans notre papier, avec Antoine sur la partie cadre, encadrement de la main-d'œuvre, etc. Et cette question des débordements. Donc cette question des débordements s'inscrit complètement dans ce qu'on pourrait appeler l'insubordination ouvrière pour cette période. Et ce sont donc des pratiques et puis des pratiques d'insubordination, de refus du travail tel qu'il est imposé, de refus de la hiérarchie, du refus de la discipline. Après, il ne faut pas généraliser non plus cela à l'ensemble du bassin stéphanois et à l'ensemble des ouvriers du bassin, bien sûr.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que plus la guerre avance, plus le gouvernement, et surtout Albert Thomas, qui est d'abord sous-secrétaire d'État à l'armement et qui va devenir ministre plus tard, tout l'effort qui est fait, en fait, c'est d'encadrer et de normaliser les relations entre employeurs et ouvriers. La volonté de mettre en place la conciliation pour régler les conflits du travail, c'est un exemple typique qui sera appliqué de manière assez partielle. Et puis Thomas quitte le ministère en septembre 17 et son successeur est beaucoup moins proche finalement. Ouais, Thomas est un socialiste, son successeur est un ingénieur. Donc on a quand même une petite rupture qui se fera à partir de la fin d'année 17. Mais en tout cas, le gouvernement, vraiment, voyant les problèmes se multiplier, va tenter de mettre un cadre, un fil conducteur pour réguler les relations sociales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui mène toute la période. Et ce qui est intéressant de voir, justement, c'est que malgré cette tentative de réguler les relations sociales, ça finit par exploser de manière quasiment incontrôlable, notamment dans le bassin stéphanois.
Et alors, dans vos observations très fines, vous parlez de stratégies de contournement. Alors, quelles sont-elles, ces stratégies ?
Les stratégies de contournement, donc, c'est des petites pratiques quotidiennes qui sont quasiment invisibles et qui sont rendues publiques dans les rapports parce qu'il y a eu une plainte qui a été posée ou qu'il y a eu une observation d'un contremaître qui l'a référé au contrôleur de la main-d'œuvre locale, qui lui-même l'a référé au commissaire spécial. Donc on a des traces vis-à-vis de ça. Il n'y a pas vraiment de dossier constitué sur ces questions-là, donc nous on a essayé de voir entre les lignes ou de voir dans une pluralité de documents où est-ce qu'on pouvait trouver ces moments de contournement parce qu'ils apparaissaient quand même assez systématiquement. Donc ces stratégies de contournement, ça va être des choses toutes bêtes. Refuser une visite médicale pour ne pas se faire embaucher dans telle usine quand on a un ouvrier mobilisé par exemple. Le cas sur Firmini où les ouvriers qui sont mobilisés sur l'usine de Firmini doivent d'abord passer une visite médicale obligatoire pour après intégrer l'usine. Mais ils ont la possibilité de refuser cette visite médicale. Et s'ils refusent cette visite médicale, on leur refuse l'accès à l'entreprise. Donc, en attendant, ils sont remis à la disposition. Donc, c'est-à-dire que pendant ce laps de temps, ils ne retravaillent pas. Donc, s'ils arrivent à avoir des stratégies assez fines, certains ont peut-être pu, et là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas assez de données, mais peut-être que certains ont pu entrecouper des périodes de travail avec des périodes de non-travail pour des petites raisons assez fines.
Alors, autre question qui m'est apparue très importante de ce que vous traitez, c'est que, en dépit du caractère hétérogène de cette main-d'œuvre et de la féminisation de la main-d'œuvre, on a visiblement un esprit de classe qui est à l'œuvre. Est-ce qu'il y a montée du syndicalisme pendant cette période de guerre ? Et n'est-ce pas plutôt une manière de manifester son pacifisme que de manifester son appartenance, par exemple, au syndicat protestataire.
Alors, pour la montée du syndicalisme dans la période, c'est net à partir de 1917. Les effectifs vont grimper à une échelle jamais connue jusqu'alors pour la CGT dans le bassin stéphanois. Il faut savoir qu'ils vont vite retomber aussi derrière. Donc on est vraiment dans une période charnière et qui coïncide avec tout un tas de facteurs qui favorisent cette montée du syndicalisme. Indéniablement, de la part des militants, le pacifisme est le leitmotiv principal. Pour les autres, c'est beaucoup plus difficile de retrouver les motivations des ouvriers et ouvrières qui se sont syndiqués à cette époque-là. Et là-dedans, on peut faire aussi bien rentrer des considérations politiques, d'ordre politique, et le pacifisme en fait partie, mais aussi des considérations toutes pragmatiques, hein, d'être protégé par un syndicat, de se sentir uni et de décloisonner un petit peu peut-être la manière dont on nous fait travailler justement. Donc le syndicalisme va peut-être être une sorte de porte de sortie pour tout un tas de personnes à l'époque, mais il faut bien se rendre compte que la séquence d'augmentation des effectifs se fait entre 1917 et 1918, mais après la chute va être quand même assez considérable par la suite. Donc on est vraiment dans une période à la fois charnière, mais à la fois aussi extraordinaire par rapport aux habitudes dans le bassin.
Antoine ?
Donc effectivement, on a une mobilisation qui est inégalée, mais qui n'est pas non plus qui ne se construit pas sur rien. Les années, en gros, 1906-1911, ont été dans le bassin déjà le moment d'une très grande conflictualité entre employeurs et ouvriers. Donc là, ce qui change, effectivement, c'est qu'on a une main-d'œuvre qui est renouvelée. La plupart des meneurs des luttes d'avant-guerre ont été justement écartés du bassin pour essayer de pacifier la situation, mais tous ces militants parisiens viennent.
Vous avez observé qu'au moment de la mobilisation, les patrons se sont un petit peu débarrassés des meneurs.
Je ne pense pas que ce soit les patrons, en fait. Il y avait des listes que le gouvernement tenait, des militants socialistes notamment, effectivement.
Les anarchistes.
Oui, donc ils savaient très bien, en fait, qui pouvait être dangereux pour la situation. Donc quand on avait, par exemple, un Frachon ou un Petrus Fort, ils ont été gentiment éjectés du bassin. Donc tous ceux qui avaient pu mener les luttes, notamment au Chambon-Feugerolles, on ne les retrouve pas du tout.
Et on ne sait pas justement ce qu'ils font durant cette période. On ne retrouve pas trace de ces personnes. Et c'est ça qui est intriguant, c'est que la plupart des militants dont on nous avait parlé avant-guerre, certains on sait qu'ils sont ailleurs, certains se rallient complètement à l'Union Sacrée, mais d'autres en fait s'évanouissent. On ne sait pas du tout les parcours de ces personnes-là durant le conflit. Et c'est pour ça que l'arrivée des militants syndicalistes révolutionnaires, anarchistes de la région parisienne va être quelque chose de radicalement à la fois nouveau et de fédérateur, parce que c'est eux qui vont impulser la plupart des grandes luttes dont on avait déjà parlé dans une des premières émissions du Grémos. C'est eux qui vont motiver les troupes, entre guillemets. Et c'est eux aussi qui vont payer le prix en se faisant interpeller et arrêter suite aux grandes grèves de mai 1918. Mais c'est vrai que cette question du syndicalisme est intéressante dans la mesure où elle permet de voir à la fois les envies, les passions, les espoirs d'une partie de la population. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a des clivages. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les cheminots qui vont être à la pointe de mouvement, aussi bien en France que sur le bassin stéphanois en 1919, par exemple, 1920, on ne les retrouve pas du tout dans les grèves et dans la conflictualité qu'il peut y avoir pendant la Première Guerre. Et c'est la même chose pour les mineurs. Les mineurs, on ne les retrouve quasiment pas. La plupart des militants syndicalistes des mineurs sont dans les organismes paritaires, participent aux réunions de conciliation, etc. Et il n'y a presque pas de lutte à ce niveau-là. Et les mineurs ne participent pas à ces luttes-là.
Alors, j'anticipe peut-être, et je ne sais si ça couvre votre travail, mais la fin de la guerre arrive. Ces syndicalistes qui se sont formés sur place vont regagner leur région. Que devient le syndicalisme stéphanois alors ?
Ils repartent pas tous, il me semble.
Ils repartent pas tous. Donc, notamment ce fameux Clovis Andrieux, donc qui a été mobilisé sur Firminy-Unieux et qui a été le meneur des grèves de décembre 1917 et de mai 1918, qui était un ouvrier charpentier, qui était syndicaliste révolutionnaire, va rester dans la région stéphanoise. Donc, il va être interpellé en mai 18 suite aux grèves, comme l'un des meneurs. Il va être emprisonné sur Clermont-Ferrand. Il va être jugé. Il va rester en prison environ un an, mais il va revenir dans le bassin stéphanois. Et c'est intéressant, c'est que finalement, il ne retourne pas sur la région parisienne, il reste dans le bassin stéphanois, avec d'autres personnes qu'on a pu voir émerger durant la première guerre, pendant la période de la guerre. Quant au syndicalisme au sens large après-guerre, donc il y a les grands mouvements de mai 1918 et de mai 1919 et les mouvements de grève de 1920. Mais finalement, le syndicalisme local, lui, va se déchirer. Et ça, c'est une des conséquences de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y a quand même la révolution russe qui voit le jour en 1917. Et le phénomène communiste va prendre une importance considérable en France et va être un point de clivage chez les socialistes, donc à la SFIO, et chez les anarchistes. Donc on va revoir tout un tas de personnes qui vont venir un temps au communisme, qui vont repartir, aussi bien anarchistes que socialistes d'ailleurs. Hein. C'est très hétérogène au départ le monde communiste. Et le bassin stéphanois, lui, va être un peu le réceptacle de ces luttes, dans le sens où on se rend compte qu'à la Bourse du Travail, et ça c'est Daniel Colson qui avait très bien étudié ça, à la Bourse du Travail, ça va être un vrai combat entre les syndicalistes révolutionnaires qui vont forger quasiment l'idéologie syndicaliste révolutionnaire qui n'était pas vraiment définie avant-guerre et qui, face aux communistes, vont essayer de construire un vrai répertoire d'action qui est propre à eux. Et le bassin stéphanois va être un de ces points d'achoppement en France, puisque en 1921, la création de la CGTU, donc la création de la CGT unifiée, qui est, elle, reliée directement au Parti communiste à l'époque, cette création va être faite à Saint-Étienne. Alors même que Saint-Étienne connaît des grandes difficultés idéologiques, puisque les militants sont divisés.
À vous entendre, on comprend combien vous avez renouvelé ce sujet là, mais sur quoi vous vous êtes vous appuyé? Quelles ont été les sources que vous avez pu retrouver qui vous ont permis de rentrer au cœur du sujet?
Assez varié. On avait donc les sources de la préfecture de Saint-Étienne, que ce soit sur les questions du travail, sur les questions militaires. On a les fonds qui sont vraiment très riches sur la période, c'est la source principale. On a quelques sources d'entreprises, jamais assez, mais heureusement on est tombé sur celle de l'entreprise Chavannes-Brun à Saint-Chamond qui nous ont énormément renseignés sur les aspects les plus ordinaires en fait. Et c'est peut-être plus que la question syndicale finalement, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'était des choses qui étaient un peu plus connues. Non, ce qui était plus important, ce que ça nous a donné à voir, avec aussi les fonds du ministère de l'Armement, les papiers d'Albert Thomas, c'est d'aller vraiment à la plus petite échelle, celle de la conflictualité ordinaire. On a vraiment pu vraiment faire un travail à une échelle micro grâce à ça, de voir effectivement que, notamment, il y a une question qui est apparue de manière assez formidable, c'est celle de l'alcool. Et donc avec toutes ces archives quand l'usine Chavannes-Brun se plaint qu'un ouvrier mobilisé est arrivé ivre, ça va donc au contrôleur local de la main-d'œuvre qui inflige une punition. Bon, généralement c'était 8 jours de prison. Alors il paraît qu'il ne le faisait pas forcément, donc on n'a pas moyen de vérifier s'ils étaient bien mis au trou ou pas pour l'occasion, mais... Donc là, on peut avoir une vision grâce à cette pluralité de sources, vraiment de qu'est-ce qui devrait être la norme du comportement de l'ouvrier patriote pendant la période. Et quand on parle des débordements, justement, ça, on a vraiment pu en voir un registre assez large, la moralité, donc l'alcool. On a d'autres choses beaucoup plus fines encore, comme un ouvrier mobilisé. À qui doit-il obéir ? Au patron ou à son chef de régiment, je ne sais pas. Et donc on a vraiment des conflits très importants en fait. On a un nombre de conflits qui est très important et encore, on est je pense très très loin de la réalité. Et donc ce qui est intéressant dans le contrepoint, c'est à la fois on a une conflictualité ordinaire qui n'est pas invisible, mais on voit quelque chose qui aurait l'air d'un fait minoritaire, mais qui est sûrement moins minoritaire que ce qu'on peut imaginer, parce que tous les employeurs ne vont pas signaler qu'un ouvrier est arrivé bourré, parce que si c'est pour que l'ouvrier reparte, s'il est bourré qu'un jour sur deux, bon, le patron peut faire avec. Hein. S'il est bourré tous les jours, là, il peut le faire partir, ce n'est pas un problème. Et on a un mouvement de masse qui va se construire justement autour de la question syndicale, Et donc, on a vraiment ces deux pôles qui se nourrissent l'un l'autre également, qui permettent de révéler vraiment ce qu'a été la période. Et ça, on a... Sans les sources de Chavannes Brun, on ne se serait sûrement pas lancé dans l'aventure.
Mais vous soulevez là les questions éternelles en période de guerre. Où est le patriotisme? Qu'est-ce que le patriotisme? À qui je dois obéir? Et peut-être est-il bon de se dire que sur le front, là aussi se posaient les mêmes questions pour les militaires. Et c'est la fameuse chanson des militaires de Craon que nous allons réécouter maintenant.
Chanson anonyme écrite en 14, reprise par les muteurs en 17, Craon.
Cette chanson.
Alors, c'est une version de la chanson de Craon, donc interprétée par la chorale révolutionnaire qui s'appelle La Barricade, une chorale stéphanoise donc, qui reprend des chants révolutionnaires avec un accordéon et qui les chante en chœur. Voilà.
Alors encore un mot, Alban, est-ce que ce conflit, cette première guerre mondiale, n'a pas été l'occasion de révéler des choses que l'on n'avait pas perçues jusqu'à présent, un peu souterraines dans les rapports sociaux?
Alors si, là, c'est complètement l'avis que j'ai, dans le sens où en ayant pu consulter des archives pour les périodes antérieures, on se rend compte que les services de police, donc c'est les commissaires spéciaux, ce qui deviendront les renseignements généraux, les commissaires spéciaux de l'époque s'intéressent vraiment à la question syndicale, grappillent ici et là de temps en temps quelques informations particulières et ponctuelles sur des relations sociales dans les usines, mais tout ça s'est tourné dans le but de comprendre les syndicats et les meneurs et les militants. Pendant la guerre, toute la surveillance que font l'objet les main-d'œuvre mobilisées, donc les ouvriers mobilisés qui sont donc des militaires, et notamment aussi les main-d'œuvre immigrées, vont donner lieu à tout un tas de rapports sur ces conditions de travail, sur les relations, et donc tous ces contournements et débordements dont on a pu voir l'intérêt et la portée durant l'époque. Et finalement, on se demande si la guerre n'a pas révélé tout un tas de pratiques qui existaient et qui préexistaient avant. Bon, bien sûr, des historiens ont déjà travaillé aussi bien sur Saint-Étienne que sur d'autres coins du monde sur les stratégies de contournement, le camp à soi ouvrier. Donc le camp à soi, c'est une notion qui vient d'un Allemand, Alf Lutke, qui est un historien qui s'est très intéressé à ces questions-là. Et il avait déjà fait émerger ça pour les périodes avant-guerre. Et finalement, la guerre permet de révéler réellement ces pratiques de contournement et de débordement. Et d'un côté, les pouvoirs publics s'en alarment et se rendent compte de toutes les stratégies et de toutes les capacités dont font preuve les ouvriers et les ouvrières pour éviter un conditionnement, un enrôlement, etc.
En fait, l'État découvre le monde du travail véritablement, qu'il ne connaissait qu'à travers la question du travail des enfants ou des femmes et la grève. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience. Bon, il faut toujours faire attention à ce mot, mais là, ce qu'est le travail, l'État le découvre véritablement à cette occasion, puisqu'il y a une... on va dire l'expérience de totalisation qui se fait jusque dans les usines, jusque dans les ateliers. C'est vraiment un coup de projecteur. Bon, c'est pas une belle image, mais on ne fait que révéler effectivement ce qui constituait déjà le sel des rapports de force entre patrons et ouvriers dans les décennies précédentes.
Merci Antoine, merci Alban pour ce bel échange. Et pour ceux qui voudront en savoir plus, je rappelle que les presses universitaires de Rennes devraient publier un ouvrage dans lequel votre publication serait incorporée.
Oui, donc pas avant l'année prochaine au plus tôt. Donc,
Mais qui permettra, ouvrage qui permettra de mettre en perspective localement et voire internationalement ces questions de main-d'œuvre.
Alors parlons maintenant des événements à venir. Ce travail que vous venez de présenter là, qui nous fait partager votre réflexion, votre travail sur la Première Guerre mondiale, s'inscrit dans l'actualité commémorative à venir, puisque le Musée d'art et d'industrie a programmé une exposition sur la Première Guerre mondiale, qui est intitulée dans les limites de mon information sur « Guerre des bénéfices ». Alors, attention, il y a jeu de mots. « Guerre », c'est G-U-E, accent grave, R-E, « Guerre de bénéfices », « Peu de bénéfices », Bénéfices de guerre, qui présentera le conflit dans la région céphanoise dans ses différents aspects et qui abordera les questions des rapports sociaux dans le bassin céphanois.
Et notamment aussi la question des profits de guerre, effectivement. Donc il y aura a priori un focus qui sera fait sur la manufacture française d'armes et cycles, donc chez Mimar, et également sur les aciéries de la marine. Donc on aura une vision assez importante justement sur ce qui s'est passé dans le bassin sur la période.
Et puis il n'est pas trop tôt pour annoncer la journée d'études du CREMOS qui portera sur Saint-Étienne métropolitaine.
Cosmopolitaine.
Cosmopolitaine.
Ah, attention.
Cosmopolitaine.
Donc justement c'est avec un partenariat avec les archives municipales de Saint-Étienne qui prévoit une forme de saison culturelle finalement autour de la question de la place des migrants, on va utiliser ce mot, des gens venus d'ailleurs et de ce qu'ils ont pu apporter à la ville de Saint-Étienne, en gros 19e, 20e, hein, sur une vision assez contemporaine. Et donc du coup, le Grémos va tenter d'apporter sa petite contribution à l'édifice avec un projet de journée d'études donc, qui est en train d'être préparé, d'être monté, qui devra avoir lieu donc, au mois de novembre sur...
La question des engagements des immigrés dans le bassin stéphanois, hommes et femmes. Donc engagement au travail et hors travail.
Dans la cité.
Dans la cité, donc. Et la journée d'études s'articulera en deux temps, comme d'habitude. La première matinée sera consacrée aux questions de l'engagement au travail, avec des témoignages et puis des contributions d'historiens sur cette thématique. Et l'après-midi sera plus tournée sur la question des immigrés dans la cité. Donc comment ils se sont inscrits dans le bassin stéphanois, dans quelles structures ils sont allés, comment les réseaux qui ont été constitués, etc. Les difficultés qu'ont pu être rencontrées aussi pour militer ou non. Donc on est en train de ficeler le programme, mais je pense que ça sera une journée toujours aussi intéressante. La veille, il y aura certainement aussi une représentation, donc là c'est encore sous réserve, mais une représentation théâtrale. Et il y aura aussi certainement une conférence à l'Institut du Travail sur cette thématique. Donc vous en saurez plus dès qu'on aura les informations.
Donc bien sûr, tout le monde sera le bienvenu. Donc ça sera sûrement lieu donc, à l'Université de Saint-Étienne. Et donc pour plus d'informations, dans quelques semaines, vous pourrez regarder le site internet du Grémos, grémos.l'autre.net, évidemment, où on mettra tout. Il y aura toutes les informations. On ne cachera rien.
Une journée présidée par Michel Zancarini-Fournel, qui a beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale et sur la place des femmes dans la Première Guerre mondiale.
Donc là, c'est sous réserve, bien sûr, mais on attend la réponse définitive. Mais quoi qu'il en soit, cette journée sera certainement encore enrichissante comme les autres journées du Grémos.
Un excellent moment que nous avons passé ensemble, et nous nous réjouissons de nous retrouver bientôt.
Au revoir.
Au revoir.